Le samedi 9 mars 2019, j'ai eu l'opportunité d'assister à l'événement Puissance des corps utopiques, une invitation du CIEP, le Centre international d'art et du paysage des Vassivières, une rencontre avec Denetem Touambona, écrivain et philosophe, et ses invités Florence Boyer, chorégraphe, et Barbara Glossowski, anthropologue. J'ai eu la chance aussi d'assister à la conférence imagée de Barbara Glossowski, La Terre, ma chère, est un archipel du désert. Elle est anthropologue, directrice des recherches au CNRS, travaille avec les Gualpiri et d'autres aborigènes d'Australie depuis 40 ans.
Son écriture magnifique, et puis Florence et Robin, leur chorégraphie, et puis ce travail d'évocation, de mise en lien. Moi, je vais essayer de, comme je vais parler un peu plus rapidement que ce qui était prévu, je voudrais rebondir sur la question de ce qu'on a appelé en Australie la génération volée, parce que elle est double, en fait. Il y a les aborigènes qui ont été retirés, pas du tout pour les mêmes raisons que celles que tu évoquais pour la Réunion, mais tout simplement parce qu'ils étaient métis. Donc on a systématiquement retiré les enfants d'union d'un aborigène et d'un ou d'une aborigène et d'un ou d'une non-aborigène, parce que ça marchait dans les deux sens. Dans les livres d'histoire, on pense toujours qu'il n'y a que les femmes aborigènes qui ont eu soit des amants dans l'amour, soit été violées, mais en réalité, il y a eu beaucoup d'histoires en Australie dans l'autre sens, c'est-à-dire des femmes blanches qui sont tombées amoureuses d'aborigènes. Et c'était interdit par la loi en Australie, parce qu'il y avait un système d'apartheid. Au tout début de la colonisation, il y a un peu plus de 2 siècles et demi, c'était pas régulé, donc il y a eu de fait beaucoup d'enfants métis. Alors je réinsiste là-dessus, dans l'amour et dans la violence. C'est très important à comprendre ça. Sauf que les enfants de ces unions-là, n'ont pas eu la chance de savoir qu'ils étaient conçus dans l'amour, quand c'était le cas, parce que, comme tu l'as dit pour la Réunion, on a voulu faire croire que tous ces enfants-là n'étaient pas aimés par leurs parents et qu'effectivement, ils avaient été abandonnés. Alors, sans besoin de signer quoi que ce soit, puisque de toute façon, à l'époque où ça a commencé en 1905, les aborigènes n'écrivaient pas, et puis on leur faisait pas non plus faire une croix comme on faisait encore il y a même pas 20 ans, pour signer quelque chose. Non, l'État avait l'autorité, s'est donné l'autorité sur les aborigènes à partir de 1905, de retirer les enfants à leurs parents, y compris quand un père qui était blanc ou bien, par exemple, pakistanais, parce qu'il y a eu beaucoup de Pakistanais et d'Afghans qui sont venus en Australie, enfin qui ont, pas librement, c'est les colons britanniques qui les ont fait venir avec les chameaux pour traverser le désert. Et donc, eux sont arrivés avec leurs chameaux sans femme. Donc, il y a eu beaucoup d'unions entre des Pakistanais et des Afghans qui étaient musulmans, avec des femmes aborigènes, et tout ça fonctionnait très très bien avec les sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs. mais l'État a systématiquement retiré les enfants de ces unions-là. Il y a un très très beau livre qui a été écrit, entre autres, parce qu'aujourd'hui il y a comme ça une reconstruction de toute cette mémoire qui a été effacée parce qu'on veut voir l'Australie en noir et blanc. On oublie complètement tous les autres apports, en fait, qu'il y a eu, asiatiques, arabes, enfin, et là, depuis au moins une cinquantaine d'années, beaucoup de subsahariens. Enfin, il y a un immense mélange, et sans parler de toutes les populations du Pacifique, y compris des gens de Polynésie française, des gens de Nouvelle-Calédonie, etc. Bref, l'Australie a eu une vision de son histoire vraiment très, très, comme ça, binaire, comme si tout ça n'avait pas existé. Et il est vrai que au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on a systématiquement renvoyé par bateau une grande partie de travailleurs dans les plantations, qui avaient construit les trains, les routes, qui travaillaient à la pêche de la perle, qui venaient essentiellement d'Asie, donc des îles qui aujourd'hui sont indonésiennes ou de Timor, des Chinois qui faisaient le commerce de la perle, des Japonais qui plongeaient dans l'océan. Toute cette population-là a été considérée comme étant l'ennemi au moment de la Deuxième Guerre mondiale et a été renvoyée. Et à ce moment-là, après la guerre, qu'est-ce qu'on fait? C'est le pendant de l'histoire des aborigènes qui vont être retirés. En gros, un enfant sur cinq dans les familles aborigènes a été retiré entre 1905 et les années 1970. Un enfant sur cinq. Dans les années 90, déjà dans les années 80, dans les images que Dan nous a montrées avec les aborigènes Black Panthers en ville, dans ce mouvement-là, qui était très inspiré des luttes, les panthères noires ont inspiré des luttes dans beaucoup, chez beaucoup de peuples autochtones à travers le monde, en fait. Donc, il y a eu des mouvements de panthères noires dans beaucoup de pays, notamment dans le Pacifique. En Australie, ça a duré que 2 ans parce que l'État ne pouvait pas accepter ça, mais ils ont, sans s'appeler, continué à s'appeler les panthères noires, ils ont continué à faire leurs activités. Mais surtout, une activité très importante, ça a été d'inventer des stratégies pour aller retrouver les archives de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, parce que les métis en ville, enfin les activistes étaient pour la plupart métis, et ils voulaient savoir d'où ils avaient été retirés, parce que quand les enfants étaient retirés, ils étaient mis dans des centres, on retirait des bébés, hein, et puis on retirait des enfants jusqu'à 10-12 ans. Voilà, donc les bébés, bah, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ceux de 10-12 ans, ils se souvenaient des circonstances atroces dans lesquelles ils avaient été arrachés à leurs parents. Et donc, malgré toutes les démarches que pouvait faire, par exemple, le parent non aborigène qui avait accès à l'administration pour garder les enfants, ils avaient le droit de donner de l'argent à l'État, qui n'était jamais donné aux enfants, hein, avec l'espoir qu'à la fin de sa scolarisation, il pourrait récupérer les enfants, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, dans les années 80, les 70, ça commence, et 80, les militants avaient des stratégies du genre, c'était des femmes souvent qui s'engageaient dans la fonction publique, dans les archives, et puis la nuit, qui faisaient rentrer d'autres activistes pour, en vitesse, à l'époque on est avant les ordinateurs et tout ça, fouiller dans les espèces de cabinets là, à dossier, voilà, photocopier ça en vitesse. Hein, on n'avait pas les téléphones pour le faire. Et puis, le lendemain, remettre le dossier, parce que si le dossier avait disparu, elles perdaient leur job, évidemment. Et donc, il y a de ce mouvement s'appelait Link Up, hein, relier. Et donc, ils ont trouvé des choses sur des gens qui se demandaient d'où ils venaient, des hommes et des femmes, et ils ont aussi été voir des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient aborigènes. Parce que dans les dossiers, il y avait l'identité. Enfin, il y avait tout l'historique, hein. C'était vraiment une espèce de un peu ce qui s'est passé dans les camps de concentration aussi, où on fichait et on décrivait les choses au jour le jour, hein, pour les sourds, pour enfin, sans parler des juifs évidemment, mais pour les populations tziganes, etc. Bon. Donc, c'est ça, l'obsession de cet univers colonial et dont on a hérité a quand même été de faire des archives. Et ça, c'est une chance, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que beaucoup de ces populations-là se réapproprient ces archives. Parfois, il n'y a pas les archives, mais ce travail à aller chercher les archives est extrêmement important. Alors donc, ces activistes font ça dans les années 80, et dans les années 90, le mouvement est tellement fort, parce que il y a des gens qui découvrent qu'ils sont aborigènes, mais parce qu'ils étaient très clairs de peau, ils le savaient pas, ou alors on leur a dit qu'ils étaient, qu'ils venaient du Pacifique, ou bien qu'ils étaient brésiliens, hein, ou ils ont été adoptés par des familles blanches, enfin bref, donc il y a tout cet univers-là qui se crée, et à ce moment-là, éclate un grand scandale des non-aborigènes attaquent l'Église en disant que eux, enfants, ils ont été abusés sexuellement et violés. Ce sont ce qu'on appelle, ceux qui lancent ça, les enfants de Liverpool. Et les enfants de Liverpool, c'était les orphelins, ou les soi-disant orphelins de écossais, irlandais ou anglais, qui vivaient dans la misère juste après la Deuxième Guerre mondiale, et à qui on tenait le même discours que celui de la Réunion, s'ils avaient un parent, en leur disant, voilà, vous envoyez vos enfants en Australie, ils auront la belle vie. Et donc effectivement, il y a des parents qui ont signé, et notamment l'arrière-grand-mère de mes filles, qui était espagnole, qui avait fait la guerre civile en Espagne, et qui avait rencontré pendant la guerre civile son mari qui était venu aider la guerre civile qui venait d'Écosse. Ils sont rentrés après la guerre civile en Écosse. Lui est mort, et elle s'est retrouvée sans papier, avec son fils, qui avait une dizaine d'années, et elle a signé, sous la contrainte du curé de la paroisse, en Écosse, à côté de St. Andrews, dans un petit village, ça on le sait, mais il a fallu du temps pour le savoir, l'autorisation pour que son fils parte. Parce que là, comme elle était espagnole, on était en Angleterre, bon, on signait les papiers, hein. Et donc, tous ces enfants sont partis sur des paquebots, sont arrivés en Australie, et on les appelle les enfants aux pieds nus. Donc, c'était des petits blancs. Et on les appelle les enfants aux pieds nus parce que ils n'avaient pas de chaussures, et on leur en a pas donné. Et en fait, les missionnaires les ont utilisés pour construire les missions. Thank you. Je raconte dans un livre qui s'appelle « Rêve en colère », donc l'histoire du père de mes filles, qui donc a une maman aborigène qui s'est mariée avec un enfant de Liverpool. Quand le père de mes filles, Wayne Joendy Barker, est arrivé pour faire des études secondaires dans un pensionnat, il a été harcelé. Ces choses-là existaient encore dans les années 70. C'était le premier aborigène métis à aller dans ce pensionnat où il y avait surtout des fils de fermiers, enfin vraiment dans un milieu extrêmement raciste. Donc il était toujours en train de se bagarrer avec les autres pour se défendre parce qu'il était le bouc émissaire. Et donc le curé en chef de cette institution l'a fait appeler après la xième bagarre et lui a dit: tu sais, je ferai avec toi ce que j'ai fait avec ton père. On saute dans le temps. Et donc, je pense que certains d'entre vous étaient là en juillet dernier, quand nous avons fait, à la ferme de la Chaux, j'avais passé un film de mes 40 années de travail dans le désert. C'est pas du tout le même peuple aborigène que celui auquel appartiennent mes filles, avec les Walpiri, puis ensuite, elles étaient là toutes les deux, puisqu'il y a Milari et Nidala, et elles ont fait un rituel de fumigation. Donc, je crois que certains d'entre vous étaient là. Et je crois qu'à ce rituel-là, elles n'ont pas chanté. Elles n'ont pas chanté. Alors, je vais vous montrer des images, si on a encore le temps, oui. En fait, la cadette Nidala a fait ce rituel aussi à Notre-Dame-des-Landes. Comme ça, on fait la boucle.
Jali, Jali, Jalo, Jalo, Jali, Jali, Jalo, Jalo.
Ces enfants de Liverpool devenus adultes dans les années 90 ont osé attaquer l'église pour ce qui leur avait été fait. Donc ils ont choisi le biais abus sexuel. C'est ça mon raccord de tout à l'heure. Je te ferai ce que j'ai fait à ton père. Je te materai comme j'ai maté ton père. Encore des scandales de ce genre. Mais il se trouve que l'évêque catholique en Australie à l'époque a accepté cette critique publiquement et a avoué qu'il y avait eu des abus. Et donc du coup, il y a eu ce film qui a été fait ensuite et aussi beaucoup de témoignages, demandes de réparation, compensation. Beaucoup de gens qui n'osaient pas dire ce qui leur était arrivé se sont mis à parler. Et du coup, on a remonté l'histoire, c'est-à-dire que c'est pourquoi il y avait des abus sexuels dans l'émission. Comment ces enfants-là étaient arrivés là? Qui étaient-ils? Et qu'en fait, ils les avaient construites. Enfin, vous voyez, on a remonté tout ça. Et en fait, qu'ils venaient de Liverpool, enfin, qu'il y avait eu ces bateaux après la deuxième. Voilà. Donc, tout ça est devenu public. Et du coup, comme c'était tout le monde parlait de ça, il y a des aborigènes qui ont osé témoigner pour dire qu'il leur était arrivé la même chose. Donc, des abus sexuels. Dans l'émission. Donc, surtout, les enfants qui avaient été retirés à leurs parents et qui donc, depuis bébé, avaient grandi dans ces centres qui étaient comme des centres de redressement, en réalité, hein, depuis l'enfance. Ou pour ceux qui étaient arrivés, qui n'étaient pas bébés, mais qui avaient entre 4 et 12 ans, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Bon, comme on a fait en Bretagne, comme on a fait dans toutes les colonies, ils étaient battus, punis. Il y a un très beau film de fiction qui a été fait qui s'appelle « Les chemins de la liberté » qui raconte ça. Ah!
une réalisation de Nini Villegas pour Radio Vassivière.